Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 1h à Paris, minuit en temps universel.
Mathis Limano.
À la une, le gouvernement congolais exige le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC. Réaction à un cessez-le-feu décrété par les rebelles du M23 à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, en partie sous contrôle du Rwanda, selon Kinshasa. À suivre, la tournée sud-américaine de Marco Rubio, objectif pour le secrétaire d'État américain, expulser les migrants illégaux vers leur pays d'origine. Il était au Salvador ce lundi, précision à suivre. Et puis lui était en Italie, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, venu s'inspirer dans sa lutte contre le narcotrafic des prisons italiennes de haute sécurité. Dans l'est de la RDC, au moins une centaine de corps ont été inhumés ce lundi à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, sous contrôle du M23 appuyé par le Rwanda. Ces corps sont ceux de personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière entre l'armée congolaise appuyée par ses alliés, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les volontaires de la Croix-Rouge et de la protection civile ont inhumé les corps au cimetière d'ITG, Alexis Guilleux.
Les corps sont emballés dans des sacs blancs, apportés par des camions de la Croix-Rouge. Ils sont descendus dans des tombes. L'odeur forte oblige les quelques curieux à se boucher le nez. Christian Mourara habite le quartier de Boujovou.
Tant de malheurs, tant de tristesses, comme par exemple, si vous pouvez voir les personnes qui viennent d'être pensées comme ces personnes vraiment. C'est tant de malheurs vraiment.
Ghislaine Kaliza, âgée de 38 ans, est sans nouvelles du corps de sa petite sœur.
Avec tout ce que l'on voit, tout ce qu'il se passe, tout cela nous angoisse. J'ai perdu ma petite sœur. Nous sommes allés la voir à l'hôpital Charité. On nous a dit que la Croix-Rouge a emporté son corps. C'est très triste. Nous pensons beaucoup à elle. Que Dieu l'accueille. Elle a été tuée au quartier Chirambo.
Quartier Chirambo.
Alain Mangolopa est le coordonnateur de la réponse humanitaire à la crise au Nord Kivu. Il explique qu'il est important d'inhumer les corps pour éviter le risque d'une épidémie.
Vous voyez les corps dans l'état dans lequel ils sont, et dans la communauté et dans les hôpitaux. Il était très crucial pour l'OMS de pouvoir apporter la contribution aux côtés des équipes des CICR pour que nous puissions faire ces enterrements dignes et sécurisés et réduire les risques de transmission des épidémies dans les hôpitaux et aussi dans la communauté, au vu des risques de choléra que nous avions ici dans la crise humanitaire.
Selon l'ONU, au moins 700 morts ont été enregistrés à Goma lors des récents affrontements. Plusieurs centaines de corps attendent toujours d'être inhumés.
Le gouvernement congolais a réagi ce lundi soir à l'annonce d'un cessez-le-feu par l'Alliance Fleuve Congo, alliance à laquelle appartiennent les rebelles du M23. Dans un communiqué, l'AFC a annoncé une trêve à partir d'aujourd'hui, mardi, pour des raisons humanitaires. Réaction du gouvernement: nous sommes coutumiers de ces communiqués, la plupart mensongers. Ce que nous attendons, a ajouté le ministre de la Communication, c'est le retrait des troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en RDC. Ce coup de théâtre à présent. Donald Trump suspend finalement les tarifs douaniers imposés au Canada. Suspension également pour un mois pour les produits mexicains. En échange, Mexico va déployer 10 000 soldats à la frontière entre les deux pays pour tenter d'endiguer le trafic de drogue et de migrants illégaux. L'immigration illégale, le sujet est au cœur de la tournée du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio en Amérique latine. Après le Panama, le secrétaire d'État américain était ce lundi au Salvador, les États-Unis cherchant à expulser les immigrés illégaux dans leur pays d'origine. Mais si le président salvadorien Nayib Bukele se présente comme un allié de l'administration Trump, il a quelques leviers pour peser dans la négociation, Carlota Morteo.
Lors du premier mandat de Donald Trump, le Salvador était devenu ce qu'on appelle un pays tiers sûr, c'est-à-dire un pays où les migrants, quelles que soient leurs origines, attendent pendant que les États-Unis étudient leur demande d'asile. 6 ans plus tard, ce type d'arrangement pourrait être remis au goût du jour, Marco Rubio souhaitant aussi non seulement que les membres du gang salvadorien MS-13 soient rapatriés vers les prisons salvadoriennes, mais que, en prime, San Salvador accepte les criminels du gang vénézuélien Tren de Aragua si Caracas venait à les refuser. Que demandera le président du Salvador en échange? Car si Nayib Bukele vante souvent sa proximité avec l'administration Trump et que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait l'éloge de la guerre sans merci que le Salvador mène contre la criminalité, il reste qu'une pression migratoire accrue pourrait fortement déstabiliser ce pays pauvre où les prisons sont d'ores et déjà saturées. Le président Nayib Bukele a notamment une carte à jouer. Le Salvador, déjà irrigué par de nombreux investissements chinois, est actuellement en pourparlers avec Pékin en vue d'un accord de libre-échange pour s'ouvrir un peu plus aux produits asiatiques, bien plus compétitifs que les produits américains.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, on se tient prêt aux menaces de guerre commerciale lancées par Donald Trump. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Les droits de douane à l'encontre de l'Europe, Donald Trump entend absolument en imposer, puisque les Européens sont selon lui de méchantes personnes qui n'achètent aux États-Unis ni voitures, ni hydrocarbures, ni produits agricoles. Pour le président français Emmanuel Macron, la réponse est simple.
Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Cet avis est partagé par beaucoup, car les droits de douane à l'encontre du Canada et du Mexique sont un réveil pour ceux qui refusaient de croire que Donald Trump passerait de la parole aux actes. Olaf Scholz, chancelier allemand.
En tant qu'espace économique fort, nous pouvons façonner nos propres activités et réagir aux politiques douanières par une politique douanière. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous ferons. Mais nous devrions avoir pour perspective et pour objectif d'agir de manière à ce que cela débouche sur une coopération.
Les instruments sont prêts car la Commission européenne a préparé des mesures de rétorsion en recensant tous les secteurs où elle pourrait imposer d'éventuels droits de douane, des mesures miroirs. Reste à voir maintenant si ce discours de fermeté empêchera à lui seul Donald Trump de déclencher une guerre commerciale. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Il est 1h06 à Bruxelles et à Rome. Et cette visite en Italie du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a rencontré son homologue italien Carlo Nordio et le procureur national antimafia Giovanni Melillo. Mais le point d'orgue de ce déplacement, c'était la visite de la prison de Rebibbia à Rome, établissement réservé aux détenus soumis au régime du 41 bis, le régime de détention le plus sévère en Italie. Il vise à convaincre les mafieux à devenir collaborateurs de justice. Le garde des Sceaux français aimerait s'inspirer de ce modèle pour son projet de prison de haute sécurité. Prison destinée à couper de leur activité criminelle les plus dangereux narcotrafiquants de France. Gérald Darmanin à Rome.
Nous n'avons pas aujourd'hui ce régime de détention spécialisé pour les plus importants de nos narcotrafiquants, ce qui fait qu'ils continuent à commander leur trafic de leur prison, commander des assassinats ou parfois organiser leur évasion, comme c'est le cas de M. Amra Carville le 14 mai dernier, avec la mort de deux agents tués à bout portant. L'Italie, avec un régime de détention particulier anti-mafia, ils ont réussi à empêcher la continuité des activités criminelles et puis surtout à pousser vers un système de collaborateurs de justice pour éviter ce régime extrêmement sévère, eh bien, un certain nombre de criminels italiens parlent avec la justice pour démonter des réseaux, ce qui n'est pas le cas en France puisque ce système de répartie n'existe pas. Le système italien d'isolement de 700 des plus gros mafieux est un modèle à copier avec, par exemple, la visio généralisée jusqu'à 10 fouilles par jour. Un détenu qui ne sort jamais de son centre pénitentiaire. Et donc, nous allons nous en inspirer puisqu'on voit bien que le narco-banditisme, la drogue, c'est un problème de sécurité intérieure. D'ailleurs, le narco-banditisme tue plus que le terrorisme.
Un des propos recueillis par Anne Lenir. Pendant ce temps, en France, François Bayrou dégaine ses premiers 49-3 à l'Assemblée nationale, l'un sur le budget de l'État, l'autre sur la première partie du budget de la sécurité sociale. Et alors que le Rassemblement national ne s'est pas encore prononcé, le Parti socialiste, lui, ne censurera pas le gouvernement Bayrou. En revanche, l'instance du PS a décidé de déposer une motion de censure spontanée via l'article 49.2 sur les valeurs de la République. Elle vise les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire, le député PS Laurent Baumel.
L'idée, c'est qu'on est sensible à la demande qui nous est faite par des élus locaux, par des responsables associatifs, par des chefs d'entreprise, que la France ait un budget. Les gens en ont besoin pour avoir leurs dotations, leurs subventions, pour que les investissements publics, les chantiers puissent démarrer. Mais en même temps, on a un budget qui ne comporte pas de concessions réelles à la gauche. Et on a surtout, à côté de ça, un Premier ministre qui, la semaine dernière, a multiplié des déclarations qui nous posent problème sur l'immigration. Il a parlé de submersion, il a fait des clins d'œil au Rassemblement national. Et donc la décision qu'on a prise dans les instances du Parti socialiste, c'est de ne pas empêcher la France d'avoir un budget là dans l'immédiat, mais derrière, très rapidement, de déposer une motion de censure pour censurer et essayer de faire tomber ce gouvernement.
Le député PS Laurent Baumel au micro de Victorien Villaume. Et puis Beyoncé couronnée aux Grammy Awards. Elle a remporté pour la première fois de sa carrière le Grammy du meilleur album pour Cowboy Carter. Le Grammy Award du meilleur album est considéré comme la plus prestigieuse des récompenses du monde de la musique. RFI, il est presque 1h10 ici à Paris.